La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
filles. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Ce cours suit pas à pas et mot à mot le voyage que l'écrivain, géographe, historien et esthète Pausanias fit en Béotie au deuxième siècle de notre ère et qu'il raconte dans le livre 9 de son œuvre intitulée La Périégèse. Denis Knopfler ne se contente pas de nous faire revivre les lieux décrits par Pausanias. Il rétablit les chronologies du texte et du voyage, comble les nombreuses lacunes du livre et en renouvelle entièrement la lecture. Nous avons commencé hier, guidé par Denis Knopfler, une longue, palpitante et très savante visite de la ville de Thèbes. Cette archéologie du texte permettent à Denis Knopfler, à l'aide des découvertes archéologiques et des recherches épigraphiques les plus récentes, de faire des liens, des rapprochements et des reconstitutions de ce que fut cette ville. Ainsi, hier, dans un impressionnant cours de philologie grecque, Denis Knopfler s'est demandé ce que venait faire un nom énigmatique dans le texte de Pausanias et ce qu'était ce nom. Il a démontré qu'il s'agissait d'une variante fautive d'un nom archaïque thébain, Kalundos. Aujourd'hui, Denis Knopfler, via la topographie, revient sur ce nom qui dérive de celui d'un roi mythique, Kalundos. Ceci va permettre d'ouvrir la leçon que nous écoutons ce matin et qui fait appel à notre imagination pour parcourir la Thèbes antique, la ville aux sept portes, comme il est écrit dans l'Iliade.
On peut parier, a priori, que Kalundos était le nom d'un fleuve. Pourquoi ? Parce qu'il est le frère du fleuve Isménos, il est le fils d'Okeanos, le dieu fleuve par excellence, et il est le frère aussi, selon en tout cas certaines versions du mythe, il est le frère de la nymphe source Mélia. Donc la famille est entièrement fluviale, si vous voulez. On est dans l'hydronomie. Et il est frappant de constater qu'un savant comme Karl Robert, un grand philologue et spécialiste de l'histoire des religions d'autrefois, il avait pressenti que ce Kantos devait être un fleuve, devait être un hydronyme. Mais il n'est pas allé plus loin, il n'a pas vu quel nom il y avait derrière Kantos. Alors, peut-on, c'est la question, peut-on identifier, localiser ce fleuve de Thèbes qui s'appelait, me semble-t-il, Kalundos. La question revient d'une certaine manière à localiser le taphos, le tombeau du pseudo-Kantos de Kalundos. Je remets sous vos yeux le texte de Pausanias, puisqu'il fournit quelques indications sur le lieu, notamment sa proximité, le taphos, proximité ou mnéma, par rapport à une source, une crénée. En tout cas, Pausanias, de manière générale, situe le taphos, qu'il ne décrit pas, notons-le au passage, dans le secteur du sanctuaire d'Apollon Isménios. Je vous rappelle que ce sanctuaire d'Apollon Isménios, il a été localisé grâce à des fouilles de cet archégète de l'archéologie thébaine qui était Antonios Keramopoulos.
dès le début du XXe siècle, dans la partie sud de la ville, ici, voyez, cet endroit-là, juste derrière la grande enceinte, et je vous rappelle donc que c'était en fonction de trouvailles tout à fait claires, la butte du, ici, du sanctuaire d'Isménios, vu depuis la Cadmée, avec un plan qui a pu et un certain nombre de vestiges, je ne reviens pas là-dessus, mais je montre à nouveau le plan de Thèbes. Donc, l'emplacement où l'on croit pouvoir mettre le tombeau de Kalynthos, appelons-le définitivement de cette manière, c'est les environs de la fontaine d'Arès, mentionnée justement par Pausanias à propos de l'Isménion. Son texte paraît impliquer un très étroit rapport de voisinage, le Taphos, la Crénée. Vous avez la phrase soulignée, pros taute et Crénée, Taphos esti Cantu, c'est-à-dire Kaluntu. Et les chercheurs, les meilleurs connaisseurs de la topographie thébaine aujourd'hui cherchent ce tombeau donc dans ce secteur plus au sud, par exemple Siméonoglou dans une synthèse commode, parfois discutable, en anglais, Topography of Thebes, cherche cela aux abords sud de l'Isménion, à propos de près des sources de cette rivière, ou vers une source qui s'appelle toujours Pilli, qui est encore davantage au sud. C'est en fait une localisation tout à fait traditionnelle qui remonte à Hermopoulos lui-même, qu'on trouve d'ailleurs partout, par exemple dans ce plan d'un petit ouvrage qui est commode, mais qui est assez médiocre en réalité. C'est une dissertation américaine de Nancy Dement, qui s'appelle, je ne sais plus, Thebes in the 5th century BC, 1981, le Kantos, près de l'Isménion, numéro 4, 21, la fontaine d'Arès. Donc c'est une localisation tout à fait traditionnelle, généralisée, mais qui ne repose sur aucune découverte archéologique, il faut bien le voir. Et je ne voudrais pas nécessairement contester frontalement cette hypothèse qui encore une fois est faite par de très bons connaisseurs de la topographie de Thèbes, ce que je ne suis pas. Mais il est vrai qu'elle n'est pas très satisfaisante, pas très séduisante. Parce que, surtout maintenant qu'on voit qui était ce Kalynthos, hein, le premier roi de Thèbes, est-ce qu'il est vraiment très vraisemblable qu'on ait installé son tombeau si loin de la Cadmée, quand même, en dehors de la vieille muraille? Ça paraît très curieux. Et si on place le tombeau du fleuve Kalynthos tout près des sources de l'Isménos, on ne voit pas alors quel fleuve pourrait bien avoir pris le nom de Kalynthos. En tout cas, une chose est certaine, et ça ressort du texte de Pausanias vers la fin, c'est que en aucun cas, Kalynthos ne peut être considéré comme le nom ancien de l'Isménos, car il y avait des traditions qui donnaient des noms plus anciens à ce fleuve très important de Thèbes, et jamais Pausanias parle lui-même du Ladon, en rapport avec d'autres mythes que je ne veux pas évoquer ici, et d'autres traditions aussi, jamais Kalynthos. Alors bon, on est dans une situation un petit peu difficile pour chercher autre chose. Ben, il me semble qu'il y a quand même peut-être un moyen, en tout cas une suggestion pour sortir de l'impasse. Il faut observer que Pausanias n'indique aucun lien direct, en réalité, au point de vue topographique, j'entends bien, entre le tombeau du héros Thébain et le sanctuaire d'Apollon Ismenios. Le lien n'est qu'indirect, hein, par l'intermédiaire de la fontaine d'Arès, la Crénée tout Aréos. C'est par là qu'est le lien. Le tombeau est censé avoir été tout proche de la fontaine. Et de là, Pausanias lui-même semble tirer la conclusion que, vu le mythe qui relie Kaluntos à Ismenos, il y a aussi un rapprochement, il y a aussi un voisinage topographique. On peut en fait se demander justement si Pausanias n'aurait pas été induit en erreur par mythe, puisqu'il n'est en fait pas du tout assuré qu'il ait vu ce Taphos. Il est vu ce Taphos. Il ne le décrit en aucune façon l'aspect de ce mnéma. Et le rapport qu'il établit entre la fontaine d'Arès et l'Isménion est également très vague, en fait. Si vous regardez le texte, il dit simplement Anoterodetu Ismeniu ten krenen idois an. Si l'on veut, pour qui voudrait voir cette fontaine d'Arès, elle se trouve au-dessus de l'Isménion. Mais au-dessus de l'Isménion, c'est loin d'être clair, à Notero, pour un sanctuaire qui est lui-même sur une colline. Ça laisse place, en tout cas, à beaucoup d'interprétations. On le voit bien dans l'embarras que les spécialistes de la topographie thébaine peuvent rencontrer. Donc on peut se demander s'il n'y a pas dans ce passage, certes, un aspect descriptif. Pausanias, on ne peut douter en aucun cas que Pausanias ait visité le sanctuaire d'Apollon Isménios. Il le décrit de manière relativement précise. Mais comme toujours, ou souvent chez lui, il introduit des éléments livresques qu'il rattache, qu'il raccorde plus ou moins habilement à la périégésis, proprement dite, à la description fondée sur l'autopsie, sur l'autopsia. Et alors, ce sentiment ne peut que en fait se renforcer quand on regarde comment on peut raisonner, il faut le faire le plus souvent qu'on peut, les pionniers. On se rend compte que plusieurs savants d'autrefois, j'avais évoqué il y a 15 jours la figure de Ulrichs, premier, disons, auteur du premier plan de Thèbes, d'autres commentateurs, le grand philologue Vilamovitz, certes qu'il ne faut pas toujours suivre, Vilamovitz a commis beaucoup d'excès à l'égard de Pausanias, qu'il n'aimait pas, mais ses réflexions n'ont pas d'intérêt pour autant. Et tous ces savants étaient absolument convaincus que Pausanias se trompait ici, à propos de la fontaine d'Arès. Cette fontaine d'Arès ne saurait en effet être proche de l'Isménion. C'est qu'au témoignage de beaucoup d'autres auteurs de l'Antiquité, à commencer par celui très clair, répété, du poète Euripide, hein, qui n'est pas le premier venu, et qui, en voisin de Thèbes, a plusieurs fois marqué, face à un public athénien qui n'ignorait pas, même si on n'aimait pas les Thébains, on devait bien s'y rendre quelquefois, à Thèbes, et qui connaissait en gros la topographie thébaine, et bien devant son public, il indique à plusieurs reprises, de manière très claire, que la grotte d'Arès, c'est cette grotte où était installé le dragon qui protégeait la source et qu'affronte le fondateur Cadmos, hein, selon le mythe qui a été très souvent évoqué par les poètes. Il faut là-dessus se reporter au livre classique de Francis Vian sur la légende de Cadmos, tout à fait elle est tout à fait important et décisif là, sur ce mythe. Et par exemple donc Euripide dans les Phéniciennes, tragédie thébaine, s'il en est, malgré ce nom. Hein, le dragon que le dieu a installé dans la grotte est présenté comme le surveillant des eaux courantes de la Dirkè. Et Geneto Dirkès Namaton Episcopos. Hein, il est. Qu'est-ce que la Dirkè de la vie absolument générale et très certainement correcte de toute l'érudition, la Dirkei, c'est l'autre fleuve, hein, celui de l'ouest, qui coule à peu près parallèlement à l'Ismenos, sur l'autre flanc de la Cadmée. C'est ça, les eaux de la Dirkei, on aura pas cité beaucoup d'autres passages. Il y en a un qui est remarquable, qu'on peut lire maintenant dans l'édition, la traduction française aussi de Jouan, dans les fragments d'Euripide, tome 7. C'est un passage papyrologique, qui nous a été rendu il y a un siècle par un papyrus, de la l'Antiope d'Euripide. Tout à fait clair. Le lien entre grotte d'Arès, fontaine d'Arès et les eaux de la Dirkei est établi de façon tout vraiment non équivoque. Donc on peut dire, avec justement Francis Vian, que Euripide a raison. Euripide a raison. Peut-être Pausanias n'a-t-il pas tout à fait tort, ou plutôt son erreur est excusable dans la mesure où tout ce qui était lié d'une certaine manière au mythe d'Apollon Isménios, a été attiré vers le sanctuaire. Hein, attiré vers le sanctuaire, qui a joué le rôle vraiment de... un rôle très, très attractif. En tout cas, je pense que pour Pausanias aussi, la fontaine d'Arès et la grotte au dragon ne devaient faire qu'un. Hein, ne devaient faire qu'un. Et on s'est étonné, d'ailleurs, que dans sa description de Thèbes, Pausanias, à aucun moment, n'évoque un des monuments pourtant les plus célèbres, les plus visibles, qui était la fontaine alimentant le fleuve, la rivière Dirkei. Et même pas là où on aurait attendu qu'il le dise, c'est-à-dire au chapitre 25, quand il dit que, sortant de Thèbes, quand on traverse le fleuve qui porte le nom tiré de la femme du roi Lycos, c'est-à-dire Dirkei, il traverse cette rivière sans évoquer la source, sans évoquer la fontaine. Et l'explication la plus probable de cet étrange silence, c'est qu'en réalité, il en avait parlé. Il en avait parlé, mais dans un passage corrompu du chapitre 8, justement, là où il est question des portes de Thèbes. Car, dans ce passage que nous regarderons dans un instant, à propos des sept portes, justement, il est question des portes Krenaiai, des Pulai Krenaiai, des portes de la fontaine. De la fontaine. Or, dans le cas de cette porte, Pausanias, le texte tel qu'il est, en tout cas, n'évoque d'aucune façon l'origine de ce terme. Alors que partout ailleurs, à tort ou à raison, ces étymologies sont parfois fantaisistes, mais peu importe. Et ici, partout, Pausanias, dans ce chapitre, pour chacune des portes, il essaye d'expliquer le nom. Là, on passe sur le nom sans aucune explication. Et la plupart des philologues, en tout cas les plus récents, admettent qu'il y a une lacune. Et c'est donc dans cette lacune qu'il y avait l'explication de ce qu'était la crénée la plus célèbre de Thèbes, celle du dragon, et qui alimentait les eaux de la Dirkei. Il me semble donc, c'est une hypothèse de travail, comme on dit, que le Potamos Kaluntos, qu'on peut mettre d'une certaine manière sur le même plan que le fleuve Isménos, a chance d'avoir été un nom, ou le nom le plus ancien peut-être, de cette Dirkei. En tout cas, une chose est frappante à travers l'œuvre des poètes et des tragiques athéniens en particulier, c'est que Thèbes est la ville aux deux fleuves. La ville aux deux fleuves. Dipotamos, Polis. Et il y a un passage qui est particulièrement intéressant dans les Phéniciennes, de nouveau, vers 825, même si le texte a été passablement discuté dans le détail, car il n'est pas toujours bien établi, il y a l'expression « didumoi potamoi », les fleuves jumeaux de Thèbes. Les fleuves du jumeau de Thèbes,
entre lesquels s'élève et fondée la cité de Thèbes. Et on voit très bien, à travers le contexte de l'Euripide et des Phéniciennes, que c'est évidemment la Dirkè et l'Isménos qui sont les axes, on peut dire, très clairs, encore une fois, les deux axes de la topographie thébaine. Souvenez-vous aussi du début des Bacchantes d'Euripide. Hein. Dionysos revient dans sa patrie. Hein. Il dit qu'il a pris le parti de revenir aux sources de la Dirkè et aux eaux de l'Isménos. Il y a ce pendant qui est très fréquent. Alors, la question qui se poserait, c'est de savoir si ce qu'il y a exactement derrière cette expression Didumoi, Potamoi. Est-ce qu'il suffit que, pour mériter ce nom, est-ce qu'il suffit que les deux fleuves aient eu simplement un cours parallèle de part et d'autre de la Cadmée? Il me semble que ce terme, ce qualificatif fort, jumeau, qui n'est pas banal, implique une gémellité encore, si l'on peut dire, plus forte. Pas seulement de nature géographique, mais sur le plan du mythe également. Or, rien de moins jumeau à cet égard que Dirkè, d'un côté, épouse d'un roi de Thèbes, Lycos, et Isménos, fils d'Okéanos. Ils ne sont pas, du point de vue mythique, ces deux figures de la mythologie thébaine ne sont pas des jumeaux. Tout au contraire, à travers le texte papyrologique, vous l'avez vu, Kalynthos ou Kleiathos, comme dit à tort le papyrus, et Isménos, ce sont des frères. Hein, ce sont des frères. Et dans la version de Pausanias, ils sont aussi parents très, très proches. On peut donc se demander si, à côté d'Isménos, qui a toujours été célébré, qui a traversé toute l'histoire antique de Thèbes, nous n'aurions pas, en la personne de Kalynthos, un héros qui, au contraire, a été victime, d'une certaine manière, le frère, le jumeau révolté, d'une espèce de damnatio memoriae. Son nom a été quasiment oblitéré dans la mémoire thébaine. En fait, plusieurs textes, je ne veux pas insister, suggèrent que le nom de Dirkè est secondaire pour le fleuve ouest. Hein. On dit par exemple, encore une fois, dans l'Antiope de Ripide, que la rivière sera appelée Dirkè par les hommes à venir. Dirkè par Androun, Ustéroun, Keklemene. Hein. Et on constate une chose remarquable, c'est que autant Isménos, le fleuve Isménos, le vieux fleuve Isménos, a eu un succès considérable dans l'onomastique thébaine, je l'avais dit, je crois, au passage, hein, avec des noms comme Isménoclès, Isménodoros, Isménias, toute l'aristocratie thébaine porte ces noms-là. Dans le cas de Dirkè, il n'y a pas un anthroponyme. C'est Dirkè qui est un nom féminin, qui généralement, vous l'avez vu à propos de l'Oréoé platéenne, ces noms féminins désignent des fleuves secondaires, non pas les plus importants. Il y avait l'opposition Oréoé Azopos, ici l'opposition Dirkè Isménos. Or, donc, pas d'anthroponyme pour Dirkè, en revanche, pour Kalynthos, il y a une petite anthroponymie, on peut dire résiduelle, quelques noms qui survivent, très rares, seulement à Thèbes, mais qui semblent attester que le toponyme, l'hydronyme Kalynthos existait bel et bien. Donc, je serais tenté considérer Kalynthos comme le nom primitif de la rivière Dirkè, sur le même plan qu'Isménos. Et pour des raisons qui nous échappent en partie, donc le nom est peu à peu oblitéré. Kalynthos est un héros mal aimé, un héros qui tombe dans l'oubli. Dans la littérature, il disparaît presque complètement, à part Lycophron, le savant poète de Chalcis. Il y avait un tombeau
peut-être mal localisé, le Mnema Kaluntu, près des eaux de la Dirke. Je pense qu'il était près, proche de la fontaine, de cette grotte d'Arès. Peut-être que le personnage serait mieux connu aujourd'hui si on avait tout peint d'art, par exemple. On aurait d'autres mentions de Kaluntos. Le souvenir s'est quand même maintenu. On l'a vu dans une courte série d'anthroponymes, des données éparses, fragiles, d'un héros qui a joué de malheur, révolté contre Apollon Isménios, écarté de façon presque définitive. Mais en fait, il n'y a qu'une seule chose dans tout cela qui me paraisse à peu près certaine, car c'est un point de philologie, c'est que désormais, et dans l'édition que je prépare en tout cas avec mon collègue Kasvitz, nous remplacerons l'impossible Kaluntos par ce vieux nom, si on peut dire un nom d'origine immémoriale, un nom très très ancien, un des plus anciens de Thèbes, Kaluntos. Voilà pour ce premier volet. On va, avant de quitter peut-être le domaine du mythe pour celui de l'histoire, vous savez que ce sont deux domaines qui en réalité s'interpénètrent dans le monde antique. Je voudrais donc, comme annoncé, vous apporter quelques précisions peut-être sur la question épineuse de la Thèbes aux sept portes. Je faisais allusion donc à ce passage du chapitre 8 qui évoque les portes. Passage certes très très important. J'ai noté le nom des portes dans la marge. Un passage, encore une fois, tout à fait capital, essentiel, mais qui est loin d'être très satisfaisant, il faut bien le dire, parce que Pausanias ne nous a pas offert ce que nous aurions pu souhaiter, c'est-à-dire la description des portes dans l'ancienne l'Archaios Peribolos de Thèbes, dans un ordre qui aurait été parfaitement clair. On n'est même pas du tout sûr qu'en fait que l'ordre qu'il indique, ces portes correspondent à la réalité topographique, car on s'aperçoit que cette énumération ne correspond pas exactement à des textes dont la valeur est assez considérable aussi, malgré leur caractère poétique. C'est la description fameuse des portes de Thèbes dans la tragédie d'Eschyle, les sept contre Thèbes. Les sept agresseurs contre chacune des portes, avec mention du nom des portes, leur défenseur, leur agresseur, de même que aussi chez dans les Phéniciennes d'Euripide. Comme toujours, il ne s'agit pas d'accabler Pausanias. Pausanias a des excuses. On peut pressentir que l'état de la muraille était assez médiocre à son époque, et il laisse voir que seules trois portes, disons, de l'enceinte étaient véritablement praticables. Je parle bien, vous l'avez vu, de l'enceinte de l'Académie. Hein, car depuis Keramopoulos, il est devenu parfaitement clair et assuré que les portes, les sept portes du mythe, ne doivent plus être rangées, disposées sur la grande muraille de Thèbes. On aboutirait à une absurdité, mais sont les sept portes de la vieille, de l'Archaios Peribolos, comme dit d'ailleurs justement Pausanias, qui enfermait la citadelle de la Cadmée. Donc, un texte problématique, d'autant plus que, si je le disais il y a un instant, son état, disons, de transmission n'est pas parfait. Il y a au moins une lacune, c'est celle qui concerne les portes Krenaiai, ces fameuses portes de la fontaine, et peut-être d'autres. Prenons comme point de départ, pour cette rapide enquête, qui ne sera certainement pas complète, c'est quelques aperçus sur un ou deux points, un plan en fait très ancien, un des plus anciens, que je n'avais pas pu vous montrer il y a 15 jours, mais que je vous montre aujourd'hui, c'est le plan de Forchhammer en 1854. En 1854, un plan dans une brochure tout à fait rare aujourd'hui de la Topographia Thebarum et Capillarum, paru, je crois, à Kiel en 1854. Et apparemment, il n'y a que 2 exemplaires de cette brochure en France actuellement. Donc, j'ai pu en avoir cette copie. C'est évidemment un plan irrémédiablement vieilli. Mais il a une certaine valeur documentaire pour la raison suivante. C'est que Forchhammer a dessiné son plan sur le relevé qu'avait établi l'état-major français dans les années 1850 pour l'ensemble du royaume de Grèce. Donc, il avait une base, si vous voulez, topographique, bien meilleure que Ulrichs précédemment ou que d'autres prédécesseurs, et chaque archéologue aujourd'hui encore, sait quelle est la valeur documentaire de ce relevé très précieux par toutes sortes de notations qui ont de vestiges qui ont disparu. Et chose remarquable, Forchhammer, sans doute impressionné par les données, les relevés qu'il avait à sa disposition, a considéré que cette Cadmée était extrêmement avait des flancs est et ouest très abrupts, et c'est ce qui l'a amené à ranger toutes les portes soit au nord soit au sud, à une seule exception. C'est là, vers le sud-ouest, c'est justement les Pulai Krenaiai, les portes de la fontaine. Pour le reste, vous pouvez peut-être le lire, je n'en sais rien, mais je vous l'indique, il met au sud, très rapprochés les unes des autres, les Pulai Upsistai, Electrai et Homoloides, au nord, les trois restantes, les Pulai Neitai, Oguiai et Proitides. Donc, une espèce de concentration remarquable. L'intérêt de cette brochure tient aussi au fait que le premier, et peut-être à certains égards l'un des seuls, il a essayé d'établir un catalogue, un tableau des portes de Thèbes, en fonction de nos divers témoins. Vous voyez qu'en bonne place se figure Échille, Euripide, puis évidemment Pausanias, Apollodore dans la bibliothèque, le pseudo Apollodore, faudrait-il dire plutôt dans la bibliothèque de mythologie, le poète Stas dans sa Thébaïde, et puis il met un peu au-delà, en les séparant quand même nettement, des témoins beaucoup moins sûrs, comme le poète Nonos de Panopolis, ou le fabuliste Hygin, qui fournissent des noms un peu fantaisiste. Sur la base de ces données, on admet le plus souvent que les portes Krenaia, les portes de la fontaine, on pourrait dire les portes, le nom de la Vulgate, hein, chez Pausania, chez Apollodore, correspondaient à celle d'Athéna Onca dans la tradition des tragiques athéniens. Hein. Porte d'Athéna Onca à placer, puisque ce sanctuaire d'Athéna Onca, non retrouvé encore à ma connaissance aujourd'hui dans le sud-ouest, à peu près par ici, joue un rôle dans le mythe fondateur de Cadmos. Athéna Onca vient au secours de Cadmos dans son attaque contre le dragon de la fameuse grotte et fontaine, donc son sanctuaire est proche, et même Pausanias dit le nom, l'épiclèse Onca, qui était probablement devenu incompréhensible, comme pour nous d'ailleurs, était une épiclèse phénicienne, puisque Cadmos est un héros, un fondateur phénicien. Voilà donc par quoi on pouvait commencer. Porte d'Onca égale porte de la fontaine. Alors comment répartir les 6 autres? On peut aller assez rapidement, car il y en a trois qui sont relativement bien localisés. Vous vous souvenez que, grâce à Kerimopoulos, l'identification des portes Electrae a été faite, donc les portes Electrae qui sont là au sud-est. Je vous rappelle qu'elles existent bel et bien, même si elles sont, ce sont les portes et murailles hellénistiques, une reconstruction d'après la destruction de 335, mais leur emplacement n'est pas douteux, et les portes plus anciennes devaient être un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà le plan, je ne reviens pas. On ira peut-être retourner en arrière pour retrouver Kerimopoulos. Oui, voilà. Donc, les portes Electrae sont localisées. On peut dire à peu près de même des Pulae Proitides. Les Proitides, bien qu'elles n'aient pas été retrouvées, mais on peut espérer qu'elles le seront un jour ou l'autre, puisque les travaux progressent considérablement sur le site de Thèbes. C'est une porte qui se trouvait dans ce secteur, puisque c'est par là qu'on allait vers l'est. On allait vers Chalcis 2B. Pausanias dit aussi qu'il prend cette porte, qu'il passe cette porte pour aller du côté de Tanagra, et puis même aussi du côté d'Acreifia vers le nord-est. Donc, localisation approximative très satisfaisante. Les portes Neitae sont également assez bien localisées dans ce secteur nord-ouest, puisque c'est par là que Pausanias part en direction de l'ouest, notamment du grand sanctuaire du Cabirion, un peu en dehors de la cité, puis vers Thespi, vers la Béotie occidentale. Donc, on peut dire qu'on a trois portes relativement bien localisées. Ces portes Neitae, il faut d'ailleurs adopter la leçon Neitae, comme le montre aussi le témoignage des Chiles et de Ripide, et non pas comme dans la plupart des éditions de Pausanias, la forme Neistae, donc Neitae. Alors, les trois portes restantes sont beaucoup, beaucoup moins bien localisées. Porte Ogugiae, chez la majorité de nos témoins, vous le voyez, qu'on identifie souvent aux portes Boraiae, c'est-à-dire des portes septentrionales. Ça correspond assez bien à la description d'Eschyle. Très problématique aussi, peut-être plus problématique encore, les Pulae Homoloides, que l'on place généralement par ici, sur le flanc est, mais à un endroit bien indéterminé entre les Electrae et les Proitides. Pourquoi ? Parce que, d'après Pausanias, dans le passage que vous avez sous les yeux, le nom de Homoloides viendrait du toponyme thessalien Homolion. Il raconte là une historiette qui n'est vraiment pas crédible, mais enfin c'était une espèce d'histoire étiologique, comme on dit, dont on peut éventuellement tirer au moins un fait, c'est que la porte en question devait être plus ou moins en direction du nord de la Thessalie. Sans ça, même le récit étiologique n'aurait eu aucun sens. En réalité, ce nom, il faut bien le voir, avait une toute autre signification. Il est en rapport avec un culte bien attesté à Thèbes et en Béotie, le culte de Zeus Homoloios, une vieille épiclèse thessalo-béotienne, et on a même un mois du calendrier béotien qui s'appelle le mois Homoloios. Donc, ça montre le caractère très très béotien et en même temps cultuel de cette appellation des portes homoloïdes. Mais là, il faudra encore attendre un peu pour savoir où elles se trouvaient exactement. Mais en fait, la plus mystérieuse, peut-être, des portes thébaines demeure sans doute celle à laquelle Pausanias et le pseudo-Apollodore, de même que le poète Stas, dans sa Thébaïde, encore une fois, donnent le nom de Pulae Upsistae. Les Pulae, littéralement, les portes les plus hautes. Et que l'on a, au moins jusqu'à Fabricius, dès le début, placé à l'ouest. dans ce secteur, sans trop savoir exactement. Hein. Les Krenayai seraient là, les Borayai au nord, les Upsistai, les Neitai ici, et dans l'intervalle peut-être les Upsistai. En fait, il y a toutes sortes de propositions à ce sujet parmi les meilleurs connaisseurs. Certains même éliminent les Upsistai au profit d'une autre appellation. Bref, l'incertitude règne là-dessus. Pausanias dit à propos des Upsistai que leur nom vient d'une épiclèse de Zeus. D'un Zeus Upsistos, justement, d'un Zeus souverain, parce qu'il y avait près de ses portes un Hiéron. Alors, malheureusement, ça vous montre bien les incertitudes de la topographie thébaine d'aujourd'hui encore, on ne sait pas où était ce sanctuaire de Zeus Upsistos, s'il a bel et bien existé. Il devait se trouver vraisemblablement sur une petite éminence, Upsistos, car il faut faire bien attention. Ce Zeus Upsistos n'a pratiquement rien à voir avec le Theos Upsistos, qui est très connu à l'époque hellénistico-romaine, qu'on retrouve dans une foule d'inscriptions, surtout de l'Orient, dans le milieu juif et plus largement sémitique, le Theos Upsistos. Ça n'est pas ce vieux Zeus. Béotien et Thébain, qui portait d'ailleurs très probablement de manière locale le nom de Zeus Upatos. Je reviendrai dans un instant. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de progresser, peut-être, tant soit peu, pour la localisation des Pulai Upsistai? Il faut, me semble-t-il, en tout cas, tenter cette chance, revenir aux portes Neitai. Parce que Pausanias, toujours dans ce même passage, a deux explications susceptibles de rendre compte de leur nom. L'une ne vaut pas grand-chose. Ce serait le nom tiré d'une héroïne, Neitis, Neis, ou Neis, qui serait en rapport avec les jumeaux Amphion et Zethos, donc d'autres fondateurs de Thèbes. C'est un fils ou une fille, dit-il, de Zethos. Ce serait appelé Neis. Vous voyez que cette explication, elle est très peu satisfaisante. En fait, elle n'explique rien. Et elle, en plus, on voit cette Neis est une héroïne tout à fait inconnue. On ne voit pas pourquoi ce nom justifierait l'appellation donnée à une porte. L'autre explication est plus intéressante. Il dit que ce nom est en rapport avec la nete, une des sept cordes de la lyre. Car, ajoute-t-il, parmi les cordes, on appelle nete, ou neate, nete c'est une forme contractée de neate, la corde la plus éloignée, entais cordais, nete calusin, ten escaten. À vrai dire, le texte là encore n'est pas bien établi. Est-ce que c'est le manuscrit dit ex auto, qui ne veut rien dire, on a corrigé, donc en ten escaten ou ten oxutaten, en tout cas une des cordes de la lyre. Vous savez, j'ai à peine besoin de le rappeler, que effectivement la lyre, la cithare antique, dans son modèle, si vous voulez, canonique, parce qu'elle a en fait beaucoup évolué au cours des siècles, mais le modèle qu'on retrouve le plus souvent dans les présentations figurées, et par pour mémoire, je montre cette image d'une cithare et d'une lyre, a sept cordes. C'est un nombre tout à fait canonique. Et alors Pausanias dit pourquoi ce nom de Neitai ou Neitai, c'est que l'invention de la corde, de cette corde-là, par le héros Amphion, aurait eu lieu à proximité de cette porte. Ouais, évidemment, ça fait un peu sourire. Mais cette naïve exégèse doit être placée dans le récit mythique de la construction des remparts de Thèbes, au son de la lyre. C'est une tradition qui est bien attestée, au moins depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Or, il n'est pas absurde de penser que dans cette cité de Thèbes, où la chose est tout à fait claire, la musique occupait une place prééminente. N'oublions pas que Cadmos lui-même, épouse Harmonia. Hein, il épouse Harmonia. Et puis, les Thébains sont réputés dans tout le monde grec par leurs musiciens, aux lettres des autres, au point que toute l'aristocratie thébaine, une des seules du monde grec, pratique la musique et ne la laisse pas seulement à des professionnels. La musique est partout à Thèbes. Ce n'est pas un hasard que la construction même de la muraille, comme dit Pausanias en un autre passage, chapitre 5, a été faite prosthène lurane. Vous voyez, non pas nécessairement avec la lyre, en s'accompagnant de la lyre, mais comme en conformité avec la lyre, C'est un lien, il y a chez les Grecs un lien très fort entre musique et politique. On pourrait citer des passages tout à fait remarquables de Platon à cet égard. Ce qui était le plus important, c'est de noter que ce lien politique, voire topographie et musique, est attesté aujourd'hui par une découverte un peu lointaine par rapport à Thèbes. C'est une série de tablettes de plomb. Tablettes de plomb du 5e siècle avant Jésus-Christ, venant de la cité dorienne de Camarina, en Sicile. Hein. Publication en 1992 par Madame Cordano, Tessere Publiche, dal Tempio di Atena a Camarina, 1992. Ces documents montrent que les citoyens étaient répartis dans des groupes, des fratries, des fratrailles, comme dit le texte ici, et on voit que deux de ces fratrailles portaient justement le nom des cordes de la lyre. Hein. La première fratra, c'était la natae. Et seconde, ou plutôt la dernière, c'était l'upata. Upate, selon les deux formes coexistent. Donc, visiblement, dans cette cité, deux des fratries avaient été nommées d'après les cordes de la lyre. Le problème peut-être, évidemment je ne vais pas entrer dans tout le détail de cette question un peu éloignée, le problème c'est que ces fratrailles de Camarine en Sicile, au 5e siècle, n'étaient pas au nombre de 7, mais au nombre de au moins 14, et à vrai dire, très certainement 18. Ce qui peut paraître difficile à concilier avec les sept cordes de la lyre. Mais les archéologues sont astucieux, les épigraphistes encore davantage, et un collègue de Lyon, M. Bruno Elli, dans un article de la Parola del Passato, 1997, a montré que les 18 fratrailles pouvaient en réalité être groupées en 6 groupes de 3, et que ce sont les intervalles, les intermédiaires, les lignes, les intervalles qui étaient au nombre de 7. Et aussi bien Mme Cordano que Elli un peu plus tard ont fait le rapprochement avec les 7 portes de Thèbes. D'autres encore, mais le cas de Thèbes est particulièrement frappant. En tout cas, le rapprochement me semble intéressant pour la question des portes néitailles. Car il me semble que désormais, il faut considérer qu'à Thèbes, ce n'étaient pas seulement les portes néitailles qui avaient un lien avec le modèle de la lyre, mais également les upsistailles. Car derrière upsistos se cache en fait l'adjectif upatos, justement, en béotien, et pas seulement en béotien, mais très bien attesté en béotien, un Zeus upatos qui avait un sanctuaire dans le territoire de Thèbes, au nord. Pausanias en parle de manière très claire en chapitre 19, Strabon aussi, et l'importance du culte de Zeus upatos, donc variante de upsistos, l'importance de ce culte ressort du fait que il y a dans l'onomastique thébaine des noms très particuliers, comme Upatodoros. C'est une preuve qui ne trompe pas, Upatas, etc. Seulement à Thèbes ou dans la ville voisine de Tanagra. Donc, il me semble que Upatai doit être le nom ancien, mais quasiment le même, que Upsistai pour une des sept portes de Thèbes, et ces Upatai sont, en quelque sorte, à la corde Upatai, ce que les Neitai étaient à la corde Netai. Pour reprendre le parallèle fait par Pausanias lui-même, ça n'est pas une invention des modernes. Il a recueilli cette tradition, simplement il ne l'a pas, il n'en a pas donné la version la plus complète, car l'imitation de la corde devait, de la lyre devait porter sur deux cordes au moins. Ce qui est remarquable, c'est que les spécialistes de la topographie thébaine n'ont pas eu connaissance de cet aspect de la recherche, et ils ont cherché les Upatai, encore une fois, ou Upsistai plutôt, dans ce secteur, mais le plus souvent en admettant un écart, en admettant, par exemple, dans un plan qui est très répandu, comme celui-ci du catalogue du musée de Thèbes, qu'on lit comme ceci, qui est orienté, lui, sud-nord, le nord à droite, et bien vous voyez que les portes Neistai sont ici, et les Upsistai sont tout à fait les portes Upsistai sont tout à fait au sud, et il y a donc un écart, elles ne sont pas voisines. Or, si le schéma, si le modèle de la lyre ou cette corde est adopté, a priori il n'y a pas de raison de ne pas le faire, puisque nous ignorons l'ordre exact des portes, il faut que ces deux cordes extrêmes correspondent à deux portes extrêmes aussi, mais qui, en fin de compte, puisque nous sommes sur dans l'ordre d'un plan, devraient être toutes voisines, les extrêmes en quelque sorte se touchent.
Nico, dieu de la guitare.
C'était Éloge du Savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé.
Polina mama, Vos prochains rendez-vous.
Au départ, un cheval, c'est juste une force brute qui vous emporte. Et puis si tout va bien, bon gré, mal gré, vous arrivez à l'amener où vous voulez. C'est vous qui finissez par orienter ce hasard en mouvement.
France Culture présente Un cheval, une pièce de Jean-Marie Besset dans une mise en scène de Gilbert Desvaux à partir du 24 août au théâtre Pépinière Opéra à Paris.
C'est un truc intime jouer, c'est comme baiser, manger, tous ces trucs géniaux à faire, c'est hideux à voir.
L'histoire d'un homme qui se ruine en pariant aux courses, librement adapté de L'influence de l'argent sur les histoires d'amour de Christophe Donner. Un cheval au théâtre Pépinière Opéra à partir du 24 août avec France Culture.
Je croyais que j'arriverais à quitter l'hippodrome sans avoir rejoué, mais non, je n'ai pas pu m'empêcher.
France Culture vous offre des places. Vos invitations au 32 30, tapez étoile puis 23, 34 centimes d'euros la minute. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire, cette semaine, histoire des classes sociales. Ce matin, un nouvel aspect de l'histoire du classement social vous est proposé à travers le commentaire de deux discours d'hommes politiques de gauche, Pierre Mendès-France et Maurice Thorez, prononcés au milieu des années 50, puis débat avec Alain Desrosières, historien. 10h, les humanités, jusqu'à la lune et retour, en compagnie d'Isabelle Jalabert, secrétaire générale de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, à propos de la pétition sur l'apprentissage de la lecture à l'école. Et Christian Montel, professeur de français retraité, auteur de La parole contre l'échec scolaire, la haute langue orale, édition de l'Harmattan. 10h30, histoire d'écoute, Upstairs and Downstairs, monter, descendre, de Pierre Sange. Upstairs and Downstairs est un hommage aux comédies musicales de Vincente Minnelli et de Stanley Donen. 11h, les chemins de la connaissance, cette semaine, psychanalyse, la nouvelle clinique, invitée ce matin, Carole de Vambrechy, sur le thème « Pourquoi les jeunes filles ne mangent rien ?» Et tout de suite, debout, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou et son invité.
Bonjour à tous et bienvenue dans les matins de France Culture. Il est 6h59 ce mercredi 6 septembre. Petit problème de son, c'est Marie-Pierre Véraud qui installe son casque. Voilà, l'équipe arrive dans le studio. Alors, un petit mot du programme à 7h20, les enjeux internationaux. Au programme aujourd'hui, le commerce mondial avec ce sujet qu'abordera Thierry Garcin. Les discussions à Rio pour tenter de relancer le cycle de Doha sur le commerce international. Les négociations sont-elles bloquées pour de longues années? C'est la question qu'il posera tout à l'heure. Et puis à 8h20, notre invité sera le président du comité consultatif consultatif national d'éthique. Didier Sicard, il est médecin, chef du service de médecine interne à l'hôpital Cochin, et il publie L'Alibi éthique, un livre qui paraît ces jours-ci chez Plon, un essai en forme de tour d'horizon des questions éthiques, questions qui se posent aujourd'hui, et notamment celles qui accompagnent les progrès de la médecine et de la biologie, des questions de fond, évidemment, qui touchent à nos convictions les plus intimes, à la religion, à notre conception de la vie humaine et à nos valeurs. On les rencontre quand on travaille sur l'embryon, l'innovation thérapeutique, le handicap, l'euthanasie ou la procréation médicalement assistée. Mais l'éthique est souvent, trop souvent, dit Didier Sicard, une étiquette ou un argument marketing. On en parlera avec lui donc. Tout à l'heure, Didier Sicard sera notre invité. Vous écoutez France Culture, il est 9h. Non. Je prends mes rêves pour la réalité. France Culture, il est 7h et c'est le journal qui nous est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali Badou, 9h arriveront également, bien sûr. Et bonjour à tous. Tout un symbole des ex-squatteurs de Cachan dans les tribunes du Stade de France ce soir pour la rencontre France-Italie. Lilian Thuram, joueur et membre du Haut Conseil à l'intégration, leur a lancé une invitation. Les sans-papiers qui deviennent l'une des causes les plus défendues par différentes stars. Faire du bruit autour du dossier GDF, c'est aussi l'objectif avoué de l'opposition qui a déjà gagné la bataille des chiffres avec un record, plus de 130 000 amendements déposés contre le projet de loi privatisant GDF. Avec Hubert Huertas, nous verrons que c'est un sport très 5e République. À l'étranger, nous irons au Mexique, un pays nous le verrons coupé en deux après la victoire du candidat conservateur à la présidence, et au Liban, alors que la France accepte de mettre sa marine à disposition de l'ONU pour surveiller les côtes libanaises et permettre peut-être une levée plus rapide que prévue du blocus imposé par Israël. À l'orée d'une bataille parlementaire qui s'annonce épique sur le projet de loi privatisant GDF, le gouvernement a peut-être voulu s'éviter de nouvelles accusations de mener une politique antisociale. En tout cas, à peine apprenait-on hier que quelques 250 000 foyers parmi les plus démunis devraient rembourser aux impôts leur trop perçu de prime pour l'emploi, que Dominique de Villepin dégainait très vite. Les chômeurs, soit la moitié des personnes concernées par le remboursement, en seront dispensés. Bruce de Galzin.
Dominique de Villepin a choisi l'accalmie. Depuis hier matin, associations de chômeurs et opposition réclamaient au gouvernement de renoncer au recouvrement de la prime pour l'emploi. En fin de journée, le Premier ministre demandait au ministre du Budget de procéder à l'examen au cas par cas de la situation des personnes concernées. Les plus fragiles financièrement n'auront pas à rembourser les sommes déjà perçues. Pour la première fois depuis le début de l'année, la prime pouvait en fait être mensualisée. Sur les 9 millions de bénéficiaires, 1,4 million ont choisi la mensualisation. Parmi eux, 250 000 ont donc touché une partie de la prime à laquelle ils n'avaient pas droit, car cette avance de trésorerie était calculée sur les revenus de l'année précédente. Et depuis, les situations financières avaient changé. Certains ont un travail mieux rémunéré, d'autres au contraire ont perdu leur emploi et ne sont donc plus éligibles à la prime pour l'emploi. Matignon souhaite que ces derniers n'aient donc rien à rembourser. Mais pour que cet épisode ne se reproduise pas l'année prochaine, il faudra modifier le projet de loi de finances.
Tout aussi réactif, Nicolas Sarkozy qui annonçait hier un geste à titre humanitaire, l'autorisation de séjour temporaire pour les époux Doumbia, un couple de Maliens évacués du squat de Cachan et menacés d'expulsion alors que leur enfant de 2 ans, malade, était lui placé dans un foyer. La famille ne sera donc pas séparée. Les associations se félicitent mais ajoutent qu'il y a un nombre de cas tout aussi dramatiques et que seule la publicité qui est faite autour d'eux incite le politique à bouger. Et pendant ce temps, le Parti Socialiste, lui, continue à se déchirer allègrement. C'est encore une fois le cas Ségolène, qui était au cœur d'un bureau politique particulièrement tendu hier, et une proposition de la favorite des sondages qui brise un tabou au PS, la suppression de la carte scolaire, pour lever l'hypocrisie qui entoure un système contourné, dit-elle. Mais la carte scolaire reste intouchable au Parti Socialiste, elle figure même dans son projet, d'où l'inévitable confrontation, Iliana Mourioussef.
Enfin, il croit la tenir. Depuis longtemps, les rivaux de Ségolène Royal attendaient la faute. Aujourd'hui, ils sont persuadés qu'elle vient de la commettre. Affirmer, comme elle l'a fait, que l'idéal serait de supprimer la carte scolaire, c'est tout simplement impensable pour un socialiste qui se respecte, trop proche des positions de Nicolas Sarkozy. Comme elle l'avait déjà fait à propos de la sécurité, Ségolène Royal a touché à l'une des vaches sacrées de la gauche, la carte scolaire comme remède aux inégalités sociales. Hier, tous ensemble au Bureau National, Clabusiens et Aubryste ont donc exigé une prise de position claire de François Hollande. Selon un jospiniste, le premier secrétaire aurait été contraint de désavouer Ségolène Royal. Certains, et même certaines, a-t-il dit, doivent savoir qu'ils ne portent pas les positions du parti, avant d'ajouter, ils auront à se justifier devant les militants. On peut faire confiance aux éléphants pour ne pas lâcher le morceau.
Des éléphants qui font assaut d'entretien dans la presse. Ce matin, dans Le Parisien, Lionel Jospin, le meilleur ennemi de Ségolène Royal, se dit ni usé ni fatigué, sans oublier de répéter que le candidat socialiste doit avoir un lien fort avec son parti. Dans Les Échos, Laurent Fabius revient lui sur ses propositions et promet de tout faire pour que la fusion GDF-Suez ne soit pas irréversible. Une fusion qui implique au préalable la privatisation de GDF. Et ce projet arrive, vous le savez, demain au Parlement. Il est déjà entouré d'un parfum de scandale. Selon la majorité qui dénonce l'obstruction de la gauche, près de 140 000 amendements déjà déposés. Dans Le Figaro ce matin, Jean-Louis Debré pose dangereusement cerné par des